أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est avec un plaisir que je vous retrouve encore une fois pour notre émission, le message de l'islam, pour aborder cette fois-ci un élément qui est à la suite de toute cette réflexion que nous avons eue sur la notion de réforme, la réforme de soi, comment se réformer intérieurement, et cette relation qu'il y a essentiellement entre notre mission quant à nous-mêmes et notre mission quant à la société et ce que nous avons à faire en société. C'est un élément important. On cite souvent ce verset qui a plusieurs niveaux d'incompréhension, plusieurs dimensions à considérer et plusieurs implications. C'est ça, parfois, malheureusement, dans notre façon de citer les versets du Coran ou de citer les hadiths du prophète, on mesure la qualité d'une conférence, d'un programme comme le nôtre, à la quantité de versets, à la quantité de hadiths qui sont cités, et on ne devrait pas agir de cette façon-là. Il y a parfois un verset, un hadith du prophète sallam qui demande à ce qu'on nous l'approfondissions. Rappelez-vous que le prophète sallam disait de lui-même, et c'était une de ses sept qualités distinctives, qu'il était jawami al-kalim, c'est-à-dire qu'il parlait peu, mais ce qu'il disait était très profond, donc il fallait prendre du temps. Parfois, il répétait plusieurs fois ce qu'il disait pour qu'on prenne le temps de la compréhension. Et nous, malheureusement, nous sommes dans le quantifiable, dans la quantité. Nous mesurons malheureusement l'islamité d'un propos à la quantité des références et non pas à la dimension de l'essence, de la compréhension de ce que nous sommes en train de dire. Et parfois, quand nous parlons de choses qui ne sont pas directement liées à l'islam, nous oublions qu'elles sont islamiques par le fait qu'elles sont, elles ne sont pas en contradiction avec les principes de notre religion. Et là, dans ce verset, pour revenir à ce verset, parce que c'était une petite digression pour nous faire réfléchir ensemble à notre méthode d'apprentissage de notre religion et à ce que nous considérons comme islamique, eh bien, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Inna Allah la yurayyiru ma bi qawmin hatta yurayyiru ma bi anfusim » Dieu ne change pas ce qui est en un peuple jusqu'à ce que ceux-ci, les gens qui le constituent, ne changent ce qui est en eux-mêmes. Et ici, on a un élément très important de la relation entre l'individu et la communauté. Nous avons un problème de ce point de vue-là, parce que non seulement les gens perçoivent les musulmans d'une certaine façon, mais nous-mêmes, nous avons un rapport à la communauté qui n'est pas toujours un rapport sain. Parfois, on a le jugement de la communauté. La communauté, ça devrait être une communauté de fraternité. Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Hujurat, il nous dit « Innamal mu'minun ikhwa ». Il nous dit deux choses. Il nous dit non seulement l'état dans lequel nous sommes les uns vis-à-vis des autres, c'est un état de fraternité, donc il faut faire la paix entre les frères, donc il y a une dimension de fraternité. Et donc, nous, ce que nous faisons souvent, c'est que nous avons une communauté qui est une communauté d'appartenance dans le jugement, c'est-à-dire où nous jugeons nos déficiences et nous ne sommes pas les frères de nos, et les sœurs de nos efforts. Et là, il y a une distorsion de la compréhension de la notion de communauté. Dans les critiques que nous trouvons par un certain nombre d'orientalistes ou par un certain nombre de personnes qui parlent de la religion musulmane, ils ont cette impression que dans les sociétés majoritairement musulmanes ou dans les communautés religieuses musulmanes, eh bien, l'individu n'est pas libre, il n'a pas d'autonomie, il est toujours porté par le sentiment communautaire, et donc ce qui fait en fait la liberté d'un homme ou d'une femme, c'est de pouvoir décider pour elle-même ou pour lui-même, eh bien, parmi les musulmans, ceci n'est pas le cas. Et donc là, il y a un problème, en l'occurrence, dans notre compréhension et dans notre vision de ce que c'est que l'islam en tant que tel et de ce que nous demande notre religion. En fait, il y a bien entendu une référence très très forte en islam à la nécessité de se prendre en charge. C'est-à-dire qu'une communauté, une société, c'est un ensemble d'individus qui chacune et chacun connaît ses responsabilités quant à lui-même et connaît ses responsabilités quant à autrui. Et encore une fois, nous trouvons ici la dimension de la balance. Être en équilibre entre se prendre en main et savoir aussi servir. Donc, se transformer, se réformer pour réformer la société et non pas simplement se réformer égoïstement, mais se réformer généreusement. Généreusement au sens du don, de ce que nous allons donner à autrui. Et cet équilibre, il est partout dans notre religion, entre l'individu et la communauté. On l'a au moment même où, seul devant Dieu, nous lui parlons à lui et nous lui disons « nous ». Dans la Fatiha, l'ouverture du Coran, l'ouverture de notre prière, on dit « Ihdina sirat al-mustaqim ». Guide-nous, nous tous, sur la voie droite. Et qui te parle, moi ? بسم الله الرحمن الرحيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين qu'est-ce que c'est moi qui parle je chante les louanges de Dieu celui qui est le maître des mondes et je lui parle à lui dans ma solitude de nous tous. C'est cet élément-là, j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète, comme un individu qui rentre seul dans l'islam, et dès que j'ai dit « je dis « nous » pour qu'il m'aide, moi, dans ce cheminement avec nous. Donc une dimension, ici on voit bien la relation de l'homme seul, et qui dit « nous » quand il va vers Dieu, et qu'il sait que finalement, toutes ces communautés ne pourra rien dans le fait de me sauver, si je ne fais pas ce que je dois faire pour me sauver moi-même, si je ne fais pas ce que je dois faire pour moi-même. Donc, je suis responsable de moi-même. Et dans ce qui est dit dans Surat al-Shu'ara, c'est-à-dire la Surat des poètes, وَكُلُّهُمْ آتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَدًا. Chacun d'entre nous viendra le jour du jugement dernier tout seul. Donc, il y a une profonde solitude de la responsabilité. Il y a une profonde conscience personnelle de la responsabilité. Et pourtant, je dis « nous », parce que le « nous » m'aidera à être mieux « je » et parce que « je » dois participer à la constitution de ce « nous » spirituel et de ce « nous » de l'humanité. Et ensuite, quand vous regardez les autres piliers de l'islam, c'est-à-dire la prière, puis la zakat, puis le pèlerinage et le jeûne et le pèlerinage, vous apercevez que tout est lié à cette double dimension de l'individu et de la communauté dans la réforme et dans la transformation. Dans la prière, on prie seul, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à prier à deux ou en individu, comme nous dit le verset du Coran. Donc ici, masna ou furat, c'est-à-dire la dimension de à deux ou tout seul. Donc, et puis, la prière en commun vaut, nous dit le prophète, 27 fois plus que la prière individuelle. Donc cette dimension de prier en jama'a, et puis el jama'a, c'est-à-dire ce lieu où l'on se réunit, el jama'a, le lieu où chacun d'entre nous va seul en ce jour où l'on se retrouve tous. Tous, c'est la communauté spirituelle, c'est la communauté des croyants. Donc c'est vrai pour la prière, la zakat, c'est encore beaucoup plus vrai, c'est une obligation verticale avec Dieu, parce que c'est un devoir que nous avons à faire devant Dieu, mais il est pour le droit de ceux qui sont vivants à côté de nous, c'est une dimension horizontale, c'est la conscience de celui qui purifie ce qu'il a devant Dieu pour servir le droit de ceux qui vivent avec lui, en Dieu ou avec Dieu ou par Dieu, en l'occurrence par la volonté du divin. Donc une dimension aussi horizontale. Donc l'individu, encore une fois, est la communauté. Et puis c'est de la même façon, le jeûne, il est une expérience spirituelle, personnelle, de participation, de compassion, d'expérimentation de la fin, de ce dénuement avec les autres. Et puis, pendant le mois du Ramadan, la famille, leur réunion de la famille, c'est-à-dire c'est le mois du Coran pour la lecture seule, c'est le mois de la famille pour le vivre en famille, c'est le tarawih de la soirée pour le vivre avec la communauté, quelque chose de très 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 communautaire dans l'expérience personnelle de ce fait que tout seul devant Dieu je ne bois pas, je ne mange pas et je ne fais rien qui puisse lui déplaire. Et puis le pèlerinage, alors c'est encore une fois ici le cheminement personnel, ce chemin, ce pèlerinage où l'on va vers Dieu, où l'on va au centre seul pour se retrouver seul là où nous sommes tous ensemble. Une dimension également de l'individu et de la communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset dont nous parlions que Dieu ne change pas ce qui est en un peuple, dans ce qui est dans une communauté, si chacun
ne travaille pas sur sa propre édification, son propre travail. C'est-à-dire qu'il y a le tout en moi. Tous sont en moi. Et ce moi, il est la lumière de tous. C'est-à-dire, plus je travaille sur moi-même, plus j'ai les capacités d'influer sur la dimension sociale, la dimension communautaire. Donc c'est un travail qui est très très important. On sait dans les traditions spirituelles le macrocosme qui est l'ensemble de la nature et le microcosme ce qui est à l'intérieur. Mais ici, il y a vraiment une responsabilité à travailler sur soi-même, à que nous sommes des femmes, que nous sommes des hommes, que nous avons à faire ce travail-là, que nous avons à nous prendre en charge et que tout ce qui nous est demandé du point de vue de notre pratique, ça va être une pratique individuelle, sachant que nous allons retrouver Dieu tout seul, que notre livre s'écrit tout seul, que même quand nous constituons une famille, que nous regardons notre mari ou que nous regardons notre femme, ou que nous regardons nos enfants, ou que nous regardons nos parents, la vie, elle est celle-ci, elle est le chemin, elle est le passage dans la communauté humaine de solitude. De solitude qui vont se retrouver devant Dieu un jour et qui devront répondre de leurs actes, mais qui doivent le vivre sans drame, sans désespoir, dans la confiance du divin, dans la confiance de leur capacité à le faire, et qui doivent également, dans leur prière, dans leur jeûne, dans tous les éléments de la pratique, pouvoir s'engager à cela. Mais ça veut dire aussi, et c'est là où il faut comprendre cette relation de l'individu à la communauté, que ça n'est pas « je m'occupe de moi pour m'occuper des autres », non, ça n'a jamais été l'exemple du prophète, c'est « je m'occupe de moi en m'occupant des autres et je m'occupe des autres » qui est la meilleure façon de s'occuper de moi, si et seulement si. Tout ce que je fais est fait dans le souvenir, dans le discernement, dans le sens des objectifs, dans cet amour du divin. C'est ça que veut dire aimer en Dieu. Aimer en Dieu, on doit aimer. Aimer en Dieu, c'est un amour qui est plus profond que d'aimer simplement à la surface de ses émotions. Aimer en Dieu, c'est aimer dans le sens de sa vie, dans le sens et la lumière de son cheminement, c'est dans le sens de sa liberté, dans le sens de sa réforme, dans le sens de ce changement. Nous avons ici à travailler ceci et donc il faut établir ceci. Et c'est comme ça que nous allons comprendre que entre l'individu et la communauté, il va y avoir les piliers de notre pratique qui vont façonner, consolider l'élément individuel dans sa pratique, dans son jeûne, et puis ensuite qui vont lui donner les moyens intellectuels, physiques, spirituels, d'être cet agent du bien dans la société. Et en étant un agent du bien dans la société, pour ne pas se perdre, il faut qu'il ou elle garde les piliers de sa force spirituelle dans la pratique et dans ces éléments qui sont sa discipline. Donc nous y reviendrons après la pause, nous parlerons de cet élément-là, de ce qui est attendu au niveau de la société, au niveau de la communauté des hommes. Je vous retrouve, Inch'Allah, tout de suite après la pause. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revenons à notre thème, celui de la relation qu'il y a dans l'islam entre l'individu qui se prend en charge et la communauté spirituelle, la communauté de foi, ce qui est en fait ce que nous devons comprendre dans le concept de umma. Dans le concept de umma, ce que nous devons comprendre, c'est que la umma n'est pas simplement la communauté des croyants qui se constituerait comme notre seule appartenance. C'est fondamentalement une communion spirituelle, une communauté religieuse. C'est là où nous sommes dans la communion, c'est là où nous avons ensemble cette dimension de rida, c'est-à-dire la satisfaction du divin. Alors évidemment, quand nous sommes dans un dialogue interreligieux ou quand nous participons à des rencontres avec des juifs, des chrétiens, des hindous, des bouddhistes ou n'importe quelle personne athée ou agnostique que l'on rencontre, mais évidemment, nous ne sommes pas dans cette communion-là. Il y a dans la communion spirituelle le fait quand on lève les mains et qu'on fait des doigts, quand on appelle Allah subhanahu wa ta'ala, la dimension de le dire ensemble et de dire ensemble amin avec son cœur, avec cette participation, la force de ceux qui croient au même Dieu unique et de la même façon. Bien sûr qu'il y a une communion ici qui est tout à fait particulière et qu'il faut la garder. Ça, c'est une chose qui est un secret, le secret de la foi, le secret de la fraternité dans la foi. foi, le secret de ce que nous disions avant la pause, Uhibbuka fillah, comme le prophète sallam dira à Mu'az ibn Jabal, radiallahu anhu, quand il lui dit Uhibbuka fillah, quand il est jeune, je lui dis je t'aime en Dieu, c'est-à-dire mon amour, il est en Dieu, il est cet amour qui est, qu'est-ce que c'est qu'aimer en Dieu? Qu'est-ce que c'est que le début de la communauté quand un frère est avec un frère, une sœur avec une sœur, quand les communautés s'établissent? Eh bien, c'est notre confiance en Dieu fait la force de notre spiritualité ensemble. C'est-à-dire que nous avons la reconnaissance de cette fraternité. Parce que dans la reconnaissance de cette fraternité, il y a ce que nous espérons de plus profond pour un être. Regardez, quand on est avec Dieu, on lui parle à lui, et quand on rencontre une femme ou quand on rencontre un homme dans la foi, on lui dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Assalamu alaikum, c'est-à-dire que la paix soit avec toi, que la paix descende sur toi et que sa miséricorde et que ses bienfaits. Toute cette dimension, elle est « je te parle à toi » de ce qui donne sens à nous deux, de ce qui donne sens à notre vie. Et ça, vous ne pouvez pas enlever ça de la vie d'une musulmane et d'un musulman. Ça, vous ne pouvez pas, comment dirions-nous, le séculariser. C'est-à-dire, il n'y a pas un bonjour dans la société, un salam wa alaykoum dans la mosquée. Il y a un salam wa alaykoum wa rahmatullah dans la vie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui était connu dans les traditions chrétiennes, juives. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifiquement musulman, mais nous, nous l'avons gardé pour dire « attention, dans ma relation à l'être, à l'autre, déjà, il y a la dimension de ce que je cherche pour lui, ce que j'espère. Pour lui, c'est sa paix. Et ce que j'espère entre nous, c'est notre paix. » Innamal mu'minun ikhwa fa aslihu bayna akhwa. Aslihu, ça veut dire réformer, faites la paix entre vous, cette dimension de l'individu et la communauté. Et on le sait, faire la paix avec soi-même, c'est la dimension de tazkiyat an-nafs, et puis ensuite de donner, d'offrir cette paix. Efshu salam, répandez la paix dans la société. Et donc c'est là où nous devons devenir des agents qui, en travaillant sur nous-mêmes, en travaillant en tant qu'individus, nous sommes autonomes, c'est-à-dire que nul être sur la terre ne peut intervenir quant à notre liberté de conscience, quant à notre liberté de choix. Il y a dans la dignité, karamat al-insan, la dimension de la liberté, et dans ma communauté, je dois être à même et on doit me donner les moyens, c'est-à-dire dans l'éducation, c'est-à-dire socialement, dans les biens, dans mon travail, dans mon appartement, dans mon bien-être, dans la nourriture, on doit me donner les moyens de mes choix. On doit me donner les moyens d'être un Bani Adam, c'est-à-dire un enfant d'Adam, c'est-à-dire d'avoir cette dimension de dignité. C'est-à-dire on lui a donné la dignité. Personne dans la société ne peut m'enlever ceci. Et ce qui est demandé dans la société, c'est attention, soyez vous qui me voyez, quand vous me voyez dans le bien, ceux qui m'accompagnent dans le bien, mais ne soyez pas les juges de mes erreurs. Soyez l'accompagnement de ceux qui pardonnent et non pas la cible de ceux qui jugent. Ça, c'est chacun d'entre nous doit faire ce travail-là dans la fraternité. C'est pour ça que la notion de fraternité, elle est un élément important de la société. Quand le prophète, alayhi salam, arrive à Médine, la première des choses qu'il va faire, c'est le mot « ahra », c'est-à-dire vraiment d'établir des liens de fraternité. Pourquoi ? Parce que certains sont là et sont établis, d'autres viennent de s'exiler et ne le sont pas, certains ont de l'argent, d'autres ne l'ont pas. Il y a des statuts sociaux qui sont différents. Et dans les statuts sociaux, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien forcément, de la compétition, des jalousies, certains qui peuvent s'en sortir, d'autres qui ne peuvent pas. Il les met dans la fraternité en leur disant « attention ». Tous les statuts sociaux du monde, toutes les expériences historiques, vous êtes resté à la maison, vous êtes exilé de la maison, ben tout ceci, la chose qui va vous permettre de le dépasser, c'est l'égalité dans la fraternité. Et là, vous résoudrez la question de la différence dans les statuts sociaux. C'est-à-dire, il faut vivre devant Dieu cette égalité suprême pour nous permettre ensuite de regarder les questions sociales d'une autre façon. Qui oublie qu'il est l'égal d'un autre devant Dieu, finalement, quand il est riche, aura l'arrogance du riche vis-à-vis du pauvre, aura le sentiment de supériorité par rapport à celui qui est en dessous, ou le sentiment de la victime par rapport à celui qui est en dessus de lui. L'égalité devant Dieu doit donner à l'individu le courage de ne jamais craindre le riche et le puissant, et l'égalité devant Dieu doit donner l'humilité au puissant de savoir qu'au bout du compte, il n'est pas davantage que le plus pauvre ou que le moins puissant. C'est-à-dire, c'est un rappel. L'individu devant Dieu, quand il se rappelle de cette fraternité-là, eh bien, il relativise les statuts sociaux. Et après, il faut s'engager dans la société. Et ça, ça veut dire qu'il faut, pour l'individu, quand il fait face à la diversité sociale, quand il fait face à la réalité de nos sociétés, il faut qu'elle ou il s'arme de cette patience, de ce travail et de ce courage aussi. Parce qu'une des choses dont on parle peu, c'est que dès qu'on est deux, il faut savoir servir, il faut de la générosité, il faut du don, mais il faut du courage. Parce que s'affirmer, affirmer le sens de son combat, le sens de ce cheminement, quand on est en face d'un autre, ça demande du courage. Attention, le courage n'est pas l'arrogance d'être sûr d'avoir la vérité, mais le courage est avoir la détermination de dire la dignité de ses choix. C'est-à-dire que j'ai le droit de choisir. Je peux peut-être me tromper. Regardez ce que nous dit même dans des choses les plus essentielles dans l'islam, même le faqir, qui va aller jusqu'à donner son énergie pour aller trouver une fatwa, une opinion légale. Quand il a raison, il a deux récompenses. Mais quand il a tort, il en a une. Il se trompe et il est récompensé. Il n'est pas récompensé de s'être trompé, il est récompensé d'avoir essayé. Et d'avoir essayé, c'est-à-dire d'avoir été déterminé, d'avoir eu le courage d'essayer, le courage d'affirmer avec son savoir, eh ben, la possibilité de donner son opinion. Ça, en société, dans nos communautés musulmanes, il faut, à un moment donné, qu'on puisse l'affirmer, qu'on puisse se rappeler de ceci, parce que nos communautés, aujourd'hui, étouffent les individus, étouffent les potentialités, étouffent les consciences par le jugement, alors que nous devrions être beaucoup plus ouverts à reconnaître les efforts plutôt qu'à passer notre temps à juger les erreurs. Et le prophète, salam, il était l'éducateur qui accompagnait les efforts, protégeait les défauts. Qui protège un croyant ici-bas, Dieu le protège ici-bas et dans l'au-delà. Cette dimension que dans ma perspective personnelle avec Dieu, quand je veux être protégé, il faut que je protège. Regardez le lien entre l'un et l'autre, l'un et le communautaire. Donc, dès qu'on a compris ceci, à quoi est-on poussé ? Eh bien, à être des agents du bien dans la collectivité. C'est ce que veut dire innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit j'ai été envoyé pour parfaire les bons comportements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce bon comportement, il n'est pas simplement pour moi, je vais avoir un bon comportement dans le service. L'islam a commencé par dire si vous voulez être près du plus haut, soyez au service du plus haut. Du plus pauvre. Kalla balla tut'imun al-yatim. Regardez dans Sourate al-Fajr. Kalla balla tut'imun al-yatim. Vous êtes en erreur parce que vous n'êtes pas aujourd'hui, vous ne vous occupez pas des pauvres. Vous n'êtes pas avec les plus pauvres. Est-ce ce sentiment de n'être attiré que par les riches ou par les gens puissants? Eh bien, vous ne devenez pas un agent du bien dans la société. Donc, quand vous travaillez sur vous-même, dans l'individu, vous travaillez sur l'effort, sur la maîtrise, sur l'assurance quant à soi, avec Dieu, jamais dans l'arrogance. Et puis, le courage de pouvoir dire, notre monde aujourd'hui, il a besoin de courage, il a besoin d'individus courageux en communauté, non pas d'individus juges avec la communauté, non pas d'individus qui ne sachent même plus s'affirmer dans la communauté, non. Courageux, c'est-à-dire qui mettent les choses dans leur priorité, qui posent les bonnes questions, parce que les communautés sont parfois emportées par les émotions. Souvenez-vous du prophète, alayhi salam. Les Aws et les Khazraj, c'était deux tribus, se sont commencé à se disputer sur d'anciennes attitudes tribales, alors que la fraternité dépassait les motifs. Les motifs ont pris le dessus sur le spirituel, et donc il a fallu retravailler. Donc nous sommes vulnérables, nous sommes fragiles, nous avons besoin de comprendre ceci. Donc le verset, pour venir et conclure, Dieu ne change pas ce qui est en un peuple avant qu'il change ce qui est en eux-mêmes, c'est ça. C'est-à-dire travailler individuellement à développer les capacités de la communauté, de la société, dans la fraternité, dans la bonté, en étant des agents de bien, pas dans le jugement, pas dans l'exclusion, pas dans la lâcheté. Si vous voulez changer une société, ayez l'assurance de vos efforts et le courage de vos opinions. Donc, Il faut, de ce point de vue-là, comprendre ce verset du prophète sallam de façon fondamentale. Il n'est absolument pas quelque chose de marginal. Vous voyez qu'un verset demande de s'arrêter. Et pour nous, en tant que femmes et en tant qu'hommes qui croyons en Dieu, de faire attention à ne pas nous laisser étouffer par les jugements communautaires, mais à ne pas nous laisser emporter par les tentations individualistes. Une question d'équilibre toujours entre reconnaître sa conscience, la liberté de sa conscience, reconnaître le droit à la liberté de sa pensée et de ses choix, et puis servir. Servir dans la communauté du mieux que l'on peut, c'est-à-dire se transformer pour transformer, se changer pour changer, s'aimer pour mieux aimer, faire la paix avec soi pour répandre la paix. Voilà cet équilibre qui nous est demandé. C'est pas facile. C'est un effort du quotidien, c'est un effort constant. Mais ça veut dire de ne pas s'isoler non plus et de ne pas se perdre. De ne pas se perdre dans ce qui serait le service de la communauté où, à force de servir autrui, on s'oublie. Tout est une question de souvenir, tout est une question de dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le Coran, « Inna nahnu nazzalna dhikr », nous avons fait descendre le souvenir. Et ça, c'est le Coran qui nous dit quoi ? Ne vous oubliez pas, n'oubliez pas autrui, n'oubliez pas la société et n'oubliez pas en vous votre cœur, votre corps et votre intelligence. N'oubliez pas le cœur, l'intelligence d'autrui et dans la société. Faites le bien, même avec les pauvres, même face aux riches, avec détermination, avec patience et persévérance, et sobre. Inna Allah yuhibbu sabirin, avec beaucoup de persévérance et de patience, mais toujours dans le respect de soi, Inch'Allah. Je vous retrouve, Inch'Allah, sur la chaîne Iqra satellitaire, et vous pouvez aussi nous retrouver sur le site internet, et à une prochaine émission, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do.